Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire. D'une carte blanche dans le cadre d'un programme de résidence intitulé « Mineurs d'un autre monde », Mélise de Kerangal prend un vol à destination de Kiruna en Laponie suédoise. Sur le mode du reportage littéraire, l'auteur nous emmène à la découverte de l'une des plus grandes exploitations minières encore en activité. Voici, de Mélise de Kerangal, quelques extraits du récit Kiruna. -67°51' nord, 20°13' est. Extérieur nuit. La piste d'atterrissage de l'aéroport international de Kiruna découpe au sol une surface pâle dont la résolution augmente à mesure que l'avion descend. Une fois posé sous les projecteurs, l'appareil se vide par l'avant et par l'arrière, les deux passerelles donnant sur le tarmac couvert de neige où le froid se déclare direct, où les passagers s'avancent en file indienne vers l'aérogare, où ceux qui attendent plissent les yeux, brandissent des affichettes siglées, se signalent, tout cela avant les accolades et les baisers. Un homme immense, prolongé d'un bonnet à pompons, se casse en deux pour enlacer une petite souris à lunettes qu'il fait disparaître dans son anorak. Le vol du soir a duré 1h30. Au sol, les confettis lumineux, coalisés en nappes denses au-dessus de Stockholm, se sont espacés, puis ont fini par disparaître, laissant place à un miroir épais dont je me demande, rivé au hublot, s'il désigne l'étendue inhabitée que l'avion survole ou la matière de la nuit qu'il traverse. Plus tard, j'éprouve ce même trouble sur la portion de route qui sépare l'aéroport de la ville. L'espace autour du car est fondu au noir, relief et végétation indistinctes, profondeur de champ inconcevable. Seuls les phares du véhicule construisent l'extérieur. Ils font surgir la route dans une courte distance. Ils la créent, blanche, deux traces parallèles et une crête centrale, les bas-côtés recouverts d'une épaisse couche de neige, des sapins, parfois une clôture de bois, et ce renard blanc, adulte, qui longe en solitaire la lisière du monde sauvage. À l'entrée dans la zone urbaine, la route s'élargit sous les réverbères, elle rallie un réseau, la neige prend des couleurs. Le nom de Kiruna apparaît dans son cartouche, mais rien de singulier encore. C'est une forme déserte et vague, aléatoire, que brossent des pinceaux de lumière. Abords ordinaires de petites villes européennes industrialisées, même banalité, même neutralité. Hangars fonctionnels, centres commerciaux et parkings grillagés, enchaînement de ronds-points, alignement de maisons individuelles en bord de route, barres d'immeubles de taille moyenne, mais aussi un essaim de grues géantes dressées dans l'obscurité, dont les flèches sont balisées de feux réglementaires rouges et blancs. Depuis quelques minutes, de rares voitures ont surgi sans bruit autour de l'autocar. Elles roulent lentement, nous font escorte. Je baisse la tête pour voir le profil des conducteurs, leurs mains nues sur le volant, les chiffres luminescents sur le tableau de bord, mais la nuit retient tout. Halo, rayons, aplats sombres, bribes de bâtiments et portions de voies, les réverbères déballent maintenant la ville en pièces détachées, sans que je parvienne à rapporter ce que je vois par la vitre de l'autocar au plan que j'ai longuement regardé avant de venir. Ce que je perçois le mieux dans ces rues désertes, ce sont les intérieurs domestiques, ces décors que cadrent des fenêtres, décorés de bougies électriques ou de guirlandes lumineuses, lesquelles déversent dans la rue une lumière chaude, d'autant plus réconfortante que la nuit est glacée. C'est seulement au moment où je reconnais la mine, où j'identifie sa forme alors qu'elle se masse dans l'axe de la route, sommet plat, profil en palier, pente douce, que l'espace s'organise, qu'il trouve soudain son unité. Elle est là, close et mate, plus noire que le ciel, dressée au-delà d'une surface plane et claire, la clarté fluorescente de la neige dans la nuit. Est-elle proche ou lointaine ? Je n'en sais rien. Il manque une silhouette humaine dans le paysage. Ce qui me frappe sur le champ, c'est son emprise. Sous la peau de la terre, j'ai cherché une mine où aller, une mine active, bruyante et peuplée, et non un bassin industriel désactivé, recyclé en patrimoine muséal témoignant d'un passé, archivant une histoire humaine. J'ai commencé par chercher des trous dans la terre, des trous gigantesques que s'entraîtent un puits noir, le cœur d'une cible, et enroulé tout autour, une route en spirale taillée dans la roche pour y descendre. J'ai cherché une mine comme on cherche un point de passage dans le sous-sol terrestre, un accès aux formes qui le structurent. Je l'ai cherché comme on cherche la porte de cet espace inconnu sur quoi s'appuient nos existences, espace dont je ne sais s'il est vide ou plein, s'il est creusé d'alvéoles, de grottes ou de galeries, percé de tunnels ou aménagé de bunkers, s'il est habité, s'il est vivant. J'ai voulu descendre dans la mine, passer la tête sous la peau de la planète, comme on passe la tête sous la surface de la mer, afin d'entrer dans une autre réalité aussi déterminante et invisible que l'est l'intérieur du corps humain. J'ai voulu vivre cette expérience, j'ai voulu l'écrire. Je suis partie à Kiruna. Polaire. J'ai imaginé Kiruna, j'ai prononcé son nom. Je me suis figuré un site industriel hors de proportion, illisible, un espace blanc, souillé, fumant et quelque part enfoui, un trésor. J'ai pensé au Grand Nord, la terre continentale, plate et dilatée. J'ai visualisé le cercle polaire, cette ligne fictive tracée sur le globe terrestre à hauteur du 63e parallèle et qui, à elle seule, produisait des visions. La pénombre bleutée, le froid, la glace, le renne et l'ours blanc, les hommes rares, la fourrure, le tambour des lapons et les aurores boréales, mais aussi les polars scandinaves crépusculaires et sanglants, les gerçures et la neige. Des visages en rappliqués, eux aussi, prélevés dans des films, et à ceux si beaux des héroïnes suédoises bergmaniennes, Liv Ullmann ou Bibi Anderson, par exemple, j'ai préféré appeler celui de Rooney Mara, forte incarnation de Lisbeth Salander dans l'adaptation de Millennium au cinéma. Cheveux noirs, corbeaux, piercing et tatouage, la robustesse dans un corps frêle, la rationalité transgressive, la solitude de la hackeuse bipolaire. J'ai choisi Kiruna parmi toutes les mines parce qu'elle est la plus grande mine de fer du monde et d'emblée, j'ai frémi devant ce que cette pole position augurait de colossal, de sonore, de démesuré. Mais je n'ai pas noté tout de suite que située à 145 km au nord du cercle polaire et couvrant une superficie d'environ 20 000 km², il s'agissait à la fois de la ville la plus septentrionale de Suède et de la commune la plus étendue du pays. De fait, Kiruna n'est pas une ville, mais un territoire, ce qui est différent. Les temps qui ont précédé mon départ, j'ai collecté d'autres données sur Kiruna. Mais ces informations issues de la cartographie géologique d'un sol n'ont su recouvrir une autre donnée essentielle qui situe Kiruna dans un temps qui précéda la Suède et précéda la mine. Un temps qui fait apparaître la Laponie, Lapland en suédois, cet immense territoire qui s'étend au nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande pour atteindre la presqu'île de Kola, et les Samis, dernier peuple autochtone d'Europe, hommes et femmes de tradition nomade, dont une minorité pratique encore l'élevage de rennes. Kiruna est depuis 1973 le siège de leur parlement. Prévoyant de partir là-bas mi-novembre, j'ai acheté des grosses chaussures montantes, des t-shirts e-tech tissés dans cette fibre technique qui évacue l'humidité et conserve la chaleur, des chaussettes adaptées aux basses températures. Je n'étais jamais allée en Suède. Lars. 10 jours plus tard, Lars et moi roulons dans une Volvo XC70 siglée LKAB. Il est 8 heures du matin, aube en technicolore, ciel de feu, la voie est déserte. La route relie la ville à la mine en ligne droite sur 2 kilomètres. Au loin, les pentes de la Kirunavara sont striées de marques noires aux endroits où la roche perce sous la neige. Je vérifie mes gants de mauvaise laine achetés à la va-vite dans une boutique de l'aéroport de Stockholm. À l'approche des portes du site, Lars me demande de sortir mon passeport. La mine est une enceinte gardée où nul ne peut s'introduire sans autorisation. Mesure de sécurité qui, en creux, signale le secret que recouvre la zone. Levé de barrière, le gardien se penche à la vitre, reconnaît Lars, me désigne du regard, bref échange verbal. Puis nous passons les contrôles. Dehors, le jour s'est levé. Nous gagnons à présent l'ouverture de la mine. Peu de mouvement à cette heure. Nous croisons tout de même quelques véhicules de service, plusieurs camions et la navette qui assure le transport des mineurs entre le fond et la surface. Nous longeons les bâtiments des vestiaires, encore une centaine de mètres, et c'est l'entrée du tunnel, ce trou où je viens m'engouffrer. -514. Mine à ciel ouvert depuis sa création, Kiruna est devenue à partir de 1965 une mine souterraine. Cette conversion, liée à la nécessité d'exploiter le gisement dans des couches plus profondes, a changé l'accès aux zones de travail. Pour gagner le fond, on emprunte un tunnel qui bascule vers l'avant et plonge dans le sous-sol terrestre. C'est un moment qui impressionne. À -514 mètres, la voiture ralentit et Lars se gare le long de la paroi du tunnel. Une épaisse flaque d'eau nappe le sol, nous pataugeons jusqu'à l'entrée de la zone des visiteurs, déserte. C'est ici, sous terre justement, dans cette immense cavité creusée dans la montagne, que LKAB abrite son musée. Se met en scène, scénarise une histoire de plus d'un siècle qui tisse ensemble révolution industrielle, essor du capitalisme, innovation technique et modernisation. Ça commence par une perdrix blanche posée dans un buisson au pied de la Kirunavara. L'installation évoque le paysage originel, la montagne telle que l'ont vue pour la première fois ceux qui prospectaient la région à la fin du XIXe siècle. Pour autant, si l'on en croit la légende, l'histoire de l'industrie minière de Norrbotten aurait commencé bien avant, vers le milieu du XVIIIe siècle, alors qu'un fermier de la région de Junosuando, parti un matin chasser l'écureuil, s'aperçoit que sa flèche, dotée d'une pointe de fer, a dévié de son axe aimanté par une drôle de pierre noire. Le fermier ramasse la pierre et la porte au village afin de la faire examiner et de la vendre. Plus tard, dans le fond d'une échoppe, un homme l'observe et la fait rouler dans sa main. Il la racle avec une lame et la chauffe avant de rendre son verdict. C'est du fer. La terre de Norrbotten regorge de métal. La nouvelle se propage à grande vitesse et les campagnes d'exploration sont aussitôt lancées dans la zone. La découverte des gisements de Kiruna, Svappavaara et Malmberget, la montagne de minerai, elle, eut lieu bien plus tard, à la fin du XIXe siècle. On imagine que les hommes ont dû écarquiller les yeux devant la montagne où le minerai affleurait en surface, à portée de main, lancer leur chapeau dans le ciel en criant, les lèvres fendues par le froid. Pour extraire le métal, il faudra des hommes et des rails, il faudra des héros. Les photos prises à l'époque des balbutiements du site sidèrent. Les hommes travaillent dehors par tous les temps, défoncent la caillasse à main nue avant d'aller se tasser dans de mauvaises cahutes. Les premières mines, Galivert, Malberguette, engendrent ces hameaux misérables où se forgent les grandes fictions épiques, où s'élaborent ces récits de fondation qui font la manne des westerns. C'est toujours la même histoire. Un éclat de minerai scintille au creux d'une paume, une veine est découverte, une rumeur se répand, des hommes affluent qui s'installent sur place, des femmes, plus rarement, un bourg se crée qu'il faut équiper, informer, sécuriser, avitailler en médicaments, en nourriture et en vêtements, en outils et en ustensiles. Bientôt, une communauté se forme. Outre les mineurs, le Norrbotten attire alors toutes sortes de marginaux, des contrebandiers d'alcool, trafiquants, prostituées, vagabonds, criminels en cavale. On l'a comparé au Klondike de la ruée vers l'or. Une photo de Malberguette prise à la fin du XIXe siècle montre exactement cela. La rue boueuse, les baraques de planches où l'on reconnaît un café, une épicerie, un magasin de bottes de cuir, et partout des hommes et des femmes au corps raide, au visage dur, au regard droit. Le tout éprouvé, mais résistant. Je m'étonne toujours de la présence des enfants. J'aimerais descendre encore, sortir de la zone d'accueil, quitter le musée et gagner les zones de travail, mais Lars secoue la tête implacable. L'accès m'est interdit. Sécurité oblige, confidentialité. La mine se dérobe, elle se retire. Pour l'atteindre, je vais devoir me tourner vers la ville, vers ceux qui vivent ici, arpenter la surface pour imaginer le fond. -1365. La mine est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Elle ne connaît aucun jour de pause, ni les machines qui refroidissent, ni les moteurs qui se rechargent. Ici, ça ne s'arrête jamais. C'est un corps vivant. Au fond, ça parle anglais et suédois, mais les hommes viennent de loin, pour la plupart de régions où il existe une forte culture de la mine. Pologne, Tchéquie, Finlande et Russie. Il a neigé cette nuit, 30 cm au moins. Le quartier de Nedre-Normal est silencieux et, hormis un type en t-shirt et bonnet de laine qui dégage sa voiture à l'appel, hormis quelques chiens qui se jettent contre les palissades en aboyant sur mon passage, tout est désert et silencieux. Je descends la rue qui bascule en pente douce vers le sud de la ville, vers le quartier désormais vide de Jernwegen, situé le long de la voie ferrée. Du haut de la rue, des plans successifs ordonnent des maisons de bois, puis de petites barres d'immeubles sans grâce, puis le lac, et enfin la mine. De la hauteur où je me trouve, la perspective écrase toute distance, et il me semble qu'en étendant le bras, je pourrais toucher du doigt les pentes émaciées de la Kirunavara. Jamais la mine ne m'a semblé aussi contiguë à la ville, non pas limitrophe, mais incorporée à son paysage. De fait, elle vient toujours plus près, elle approche. À Kiruna, la ville et la mine ont surgi de terre comme deux sœurs siamoises à la fin du XIXe siècle et sont aujourd'hui encore le recto et le verso d'une même réalité. Cette histoire de co-création et de dépendance réciproque est au cœur de ce qui motive mon voyage. Elle éclaire la tension phénoménale qui organise les lieux. En un siècle d'existence, l'exploitation intensive du gisement a modifié le sous-sol de la ville. 1 milliard de tonnes de minerais ont été sorties de terre, créant un réseau souterrain de voies, de tunnels, de boyaux. Et tout cela a contribué, on s'en doute, à une déstabilisation générale du terrain. Affaissement, éboulis, fracture, plus la mine s'étend sous terre et plus les fissures apparaissent en surface. Ce phénomène de réplique, qui n'est pas propre à la mine de Kiruna, semble avoir évolué ici plus rapidement que prévu, finissant par menacer directement des maisons situées le long de la veine et par entraîner des évacuations urgentes, effectuées au coup par coup et sans plan établi dès les années 60. Depuis, l'exploitation a progressé, suivant l'orientation de la veine de minerai qui s'enfonce en plan incliné sous la ville, et les galeries se sont dangereusement rapprochées du centre de l'agglomération. Dès lors, ce que l'on anticipait il y a un siècle se précipite, inéluctable. La ville s'effondre. Elle est peu à peu engloutie par la mine. Des visions d'apocalypse surgissent, gouffres, brèches, glissements de terrain, maisons et silhouettes aspirées par le fond de la terre. Quand il s'agit d'une menace plus insidieuse, édifices qui se froissent, béton qui se lézarde, trottoirs qui se fendillent comme du biscuit sec, béance et craquellement. Intimement liés, les destins de la mine et de la ville sont désormais pris dans une même impasse. Si la mine continue de s'étendre sans que rien ne bouge, les habitants, menacés, finiront par vider les lieux. Or, la mine a besoin des hommes pour fonctionner et du cadre de vie que leur donne la ville pour les retenir dans cette région des confins, enfouie dans la nuit polaire ou baignée du soleil de minuit. Si la mine fermait ou si le rythme d'extraction du minerai ralentissait afin de préserver ce qui peut encore l'être, alors Kiruna se viderait sans doute d'au moins la moitié de ses habitants. Il n'y aurait plus assez d'emplois pour retenir ici ceux qui vivent, directement ou non, de cette ressource. Au printemps 2004, les géologues de LKAB ont sonné l'alarme, estimant à 20 ans la survie du centre-ville, à 10 ans à peine celle de certains bâtiments. 5 années de réflexion ont suivi, au terme desquelles la mairie, soutenue par LKAB, a opté pour une solution radicale, déménager. Nous avons entendu des extraits de Kiruna, une enquête littéraire de Mélisse de Kerangal. C'était Écoutez lire. Une émission de Radio Alto.